Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il y a 40 ans, le 20 septembre 1979, l'empereur autoproclamé de Centrafrique était renversé avec le soutien de la France. Après 14 ans de règne, Jean-Bedel Bokassa est alors contraint à l'exil, d'abord à Abidjan, en Côte d'Ivoire, puis en région parisienne, en France. Mais 7 ans plus tard, il décide de retourner en Centrafrique. Il est convaincu qu'il sera acclamé par la population. Il n'en saura rien. Bokassa Ier sera jugé, condamné à mort pour assassinat, atteinte aux libertés individuelles ou encore détournement de fonds, une peine qui sera commuée en prison à vie, puis à 10 ans de prison. Finalement, il ne purgera pas la totalité de sa peine, puisqu'en 1993, le président Kolingba décide de le gracier. Alors l'occasion, ce matin justement, de revenir sur les années Bokassa, sur le parcours de ce colonel qui est devenu président de la République grâce à un coup d'État. Il s'est autoproclamé maréchal, président à vie, puis empereur lors d'une cérémonie qui aurait coûté, dit-on, un quart du budget annuel de la Centrafrique. Bokassa donc le mégalomane, Bokassa aussi le bâtisseur, puisque c'était l'époque des grandes constructions. D'ailleurs, pour ceux qui ont connu les années Bokassa, nombreux nous diront, à l'époque, Bangui la capitale était surnommée Bangui la coquette, c'est vrai, mais Bokassa c'était aussi un tyran, c'était un tortionnaire. On va donc revenir sur l'image de cet homme. Quelle image gardez-vous de lui? Comment expliquer aujourd'hui que Bokassa suscite encore une certaine nostalgie? Je le vois en lisant vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Une certaine nostalgie auprès d'une partie des Centrafricains. 33 9 693 693 70 et vos commentaires, c'est promis, j'en lirai quelques-uns tout au long de l'émission. Guy, bonjour.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les visiteurs de la RFI.
Merci de nous appeler de Bangui, la capitale centrafricaine, qu'on n'appelle plus Bangui la coquette, mais malgré tout, Guy, vous tenez à rendre hommage à Bokassa.
Oui, au-delà du côté excentrique du personnage, au-delà de la mégalomanie, Bokassa est le seul homme d'État centrafricain qui a véritablement bâti la RCA. C'est l'homme qui a construit la RCA. Et j'en veux pour que vous avez tout ce que nous avons aujourd'hui en République centrafricaine, plus précisément dans la capitale Bangui, les relèves de la période Bokassa. La télévision, vous avez aussi le palais de la Renaissance. Vous avez beaucoup de choses qui ont été construites par Bokassa. Et oui, aujourd'hui, grâce à cet homme, la RCA a gardé une certaine fierté. C'est vrai que l'homme était un despote à un certain moment de l'histoire, mais l'homme a aussi contribué à ce qu'on appelle au développement de la RCA, à atteindre l'autosuffisance alimentaire à un certain moment de l'histoire. Donc, moi, je rends véritablement hommage à cet homme qui nous a quittés et qui nous a laissés vraiment dans des difficultés jusqu'aujourd'hui.
Ouais, enfin, qui vous a laissé dans difficulté, c'est-à-dire qu'il est quand même en partie responsable de la situation actuelle de votre pays.
Oui, il n'est pas le seul. Et vous conviendrez avec moi que la période à laquelle Bokassa s'est livré à toutes ses excentricités, c'est un contexte général en Afrique. Vous avez Idi Ahmed Dada en Ouganda, vous avez Sékou Touré en Guinée, vous avez Fassa Tombalmaï au Tchad, vous avez Mobutu au Zaïre. Donc Bokassa n'était pas le seul. Et je vous apprends aussi que Bokassa a été soutenu par la puissance tutélaire qui était la France à cette époque.
Oui,
la
excusez-moi, Guy, avec tout le respect que je vous dois, vous ne me l'apprenez pas. Évidemment qu'il était soutenu par la France, par Valéry Giscard d'Estaing, par De Gaulle un peu avant. Et c'est d'ailleurs la France qui un jour a dit il faut s'en débarrasser. D'où la chute de Bokassa il y a maintenant 40 ans, quasiment jour pour jour. Hein, ce sera demain le 40e anniversaire. Merci Guy d'avoir lancé le débat, d'avoir été avec nous ce matin. Alban, soyez le bienvenu.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors, c'est intéressant ce que vous disiez au Standard, Alban. Vous disiez qu'aujourd'hui, en 2019, Bokassa continuait à vous inspirer.
Oui, en tout cas, Juan Gomez, comme je vous ai dit au Standard, là, Bokassa continue toujours de nous inspirer parce que je pense pour ma part que c'est l'héros national. Et vous savez, dans la conscience collective centrafricaine, même sa renommée tend à dépasser la renommée de
Ah, on vous a perdu.
Je vous perds, Alban.
Malheureusement, le réseau s'est dégradé. On va essayer de vous rappeler. On a tout d'un coup de gros problèmes. Autant il y a quelques minutes, toutes les lignes passaient très très bien avec Bangui. Et depuis le début de l'émission, voilà, elle se dégrade rapidement. Heureusement que vous êtes nombreux à nous envoyer des commentaires sur la page Facebook. Il y a André, par exemple, qui nous dit « Oui, Bokassa était un tyran. Mais c'est sans aucun doute le seul et l'unique bâtisseur de la Centrafrique, car ses œuvres sont encore perceptibles à Bangui. » C'est ce que disait Guy il y a quelques instants. « Si les Centrafricains sont nostalgiques de son passage, c'est uniquement parce que ses successeurs n'ont rien fait en termes d'infrastructures routières, d'eau, d'électricité. Damien qui nous écrit de St. Catharines, c'est au Canada, il nous dit « Bokassa avait certes une folie des grandeurs non maîtrisée, mais il est le seul président qui a laissé des traces positives. Son université reste l'unique université du pays, victime de la négligence de ses successeurs, y compris de l'actuel président qui fut enseignant dans cette même université. » Et j'ai eu l'occasion de me rendre à l'université de Bangui. Effectivement, ça a dû être une très belle université, pour dire les choses voilà telles qu'elles sont. Aujourd'hui, elle est dans un état déplorable. Au standard, au 33 9 693 693 70, Marie-Rachel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes centrafricaine, vous êtes à Paris, mais vous étiez au lycée à Bangui quand Bokassa est arrivé au pouvoir.
Tout à fait.
Et vous êtes partie avant le sacre. Racontez-nous, quels souvenirs gardez-vous de cette période, Marie-Rachel?
Moi, comme je dis, c'est mitigé, c'est-à-dire qu'il y a un bon côté, mais le mauvais côté vient dominer ce qu'il a fait. On se pose, nous autres, est-ce que tout ce que Bokassa a bâti va le mieux que des vies humaines qui ont été enlevées aux enfants, aux parents, à tous ceux qui... Tout ce que Bokassa, nous, on garde de Bokassa, c'est un goût amer,
oui.
Très amer, parce que tuer des enfants, faire tuer des parents, instaurer la délation, instaurer la terreur, tout ça, est-ce que ça c'est comparable avec ce qu'il a bâti?
Oui. Vous parlez de ces tueries d'enfants, ce ne sont pas des paroles en l'air, hein. Ça s'est réellement passé, ce sont les massacres d'avril 1979, une centaine d'écoliers, d'étudiants sont tués par la garde présidentielle de Bokassa. C'était des étudiants qui étaient sortis manifester, protester contre l'obligation de porter des uniformes scolaires qui étaient selon eux trop chers. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était des uniformes fabriqués par un membre de la famille de Bokassa. Et donc, voilà, pour réprimer ces étudiants, ces élèves en colère, ordre a été donné de les tuer. Des événements qui ont d'ailleurs choqué la communauté internationale et qui ont choqué la France à l'époque. La France a toujours soutenu Bokassa, mais c'est vrai qu'elle commence à prendre ses distances à partir de ces événements tragiques, de ces massacres d'avril 1979. Marie-Rachel, qu'avez-vous envie de répondre à ceux qui mettent surtout en avant Bokassa le bâtisseur?
Ben, on a tendance à dire que c'est la communauté de la famille de Bokassa qui met l'histoire de bâtisseur pour couvrir tous les méfaits que Bokassa fait. Imaginez qu'à l'époque de Bokassa, on ne payait pas le salaire, mais on obligeait les parents, hein, à acheter des tenues, des machins, puis sinon ils sont massacrés. Alors, il y a eu des massacres, non seulement des étudiants, mais ça a commencé par les opposants. Aucun parti politique n'existait. Ouais. On ne pouvait pas contester Bokassa.
Il régnait en maître, hein, sur la Centrafrique, c'est incontestable. Merci beaucoup de ce témoignage, Marie-Rachel. Merci d'avoir appelé de Paris au 33 9 693 693 70. Je ne sais plus qui nous avons, on m'a dit Rémi. Voilà, on m'avait dit le prénom d'un auditeur, mais je ne l'avais pas noté sur ma petite fiche. Bonjour Rémi.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors, quelle image gardez-vous de Bokassa, le mégalomane, le bâtisseur ou le tyran?
Moi, je n'ai pas vécu à l'époque de Bokassa, mais selon l'histoire, Bokassa a échoué dans le domaine des droits de l'homme. Mais dans le domaine, moi, ce que j'ai gardé, j'ai vu les traces de Bokassa. Et ce sont des traces positives que moi j'ai vues à mon époque. Et aujourd'hui, ce que la jeunesse centrafricaine, aujourd'hui, pas la jeunesse d'hier, aujourd'hui garde de Bokassa, c'est cette image de bâtisseur. C'est quelqu'un, mais lorsqu'on parle de massacre, on parle de tuerie, etc., je pense que les présidents qui ont succédé à Bokassa, on ne peut pas aujourd'hui les mettre à côté. D'autres ont tué et ont détruit. Donc vous imaginez à peu près, mais Bokassa, il a construit...
Vous êtes, excusez-moi, un peu ironique, hein, parce que vous dites d'autres ont tué, mais ils ont détruit, Bokassa a tué, mais il a construit. Vous voyez, c'est un peu en substance ce que vous dites. Alors oui, il a construit l'université, ça a été dit par des auditeurs, il a construit l'aéroport, de nombreuses écoles, le marché, je n'ai plus le nom du marché, mais un des marchés importants de Bangui, ces immenses boulevards de la capitale centrafricaine, on les doit, effectivement... à Bokassa, je me souviens, il y a 3-4 ans, quand j'étais à Bangui, des gens me parlaient évidemment de la période de Bokassa, et je me souviens d'un centrafricain qui me disait « Mais avec Bokassa, on aurait pu avoir le métro à Bangui. » Rémi.
Ah oui, avec Bokassa, on peut avoir tout. On peut avoir tout, on devrait même avoir tout, mais malheureusement, Bokassa est parti, et voilà, ceux qui sont succédés, ils sont là juste pour mettre des peintures sur les bâtiments, etc. Rouen, quand vous partez en province, dans les différentes villes de province, vous allez voir les traces de Bokassa un peu partout. Faut pas que les Centrafricains nient ça. On sait que Bokassa a eu un passé sombre lorsqu'il était au pouvoir, mais on sait, tout le monde doit reconnaître ça, Bokassa a bâti ce pays, et Bokassa était même le promoteur de l'éclat de la femme en République centrafricaine. C'est le premier président qui a nommé une femme à la tête de la primature.
Effectivement.
Et donc ça, c'est une avancée que nous devons noter, même s'il y a des côtés négatifs, mais le côté positif, si on essaye d'évaluer le côté positif de Bokassa et le côté positif des autres présidents qui l'ont succédé, je pense que Bokassa est le meilleur président de tous les temps.
Bon, Axel, en tout cas, sur Facebook, nous dit « Pour moi, Jean-Bedel Bokassa reste l'unique bâtisseur de la République centrafricaine. Si seulement on pouvait ramener les morts à la vie, la première personne serait sans aucun doute Jean-Bedel Bokassa. » Fabrice nous dit « Depuis la chute de notre précieux Bokassa, la Centrafrique est secouée par la haine et le tribalisme. » Yves nous dit « Bokassa incarne toutes les compromissions que la France peut accepter quand des diamants sont en jeu. » J'imagine qu'Yves fait référence à l'affaire des diamants, qu'aurait offert Bokassa au ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, au début des années 70. Ensuite, il est devenu président de la République et cette affaire lui a coûté l'élection en 1981. Si vous souhaitez en parler, évidemment, on en parle durant les minutes qui nous restent. 33 9 693 693 70. Bonjour Christian.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Bangui ?
Oui, je suis à Bangui.
C'est bien ça. Alors, quelle image gardez-vous, Christian, de Jean-Bedel Bokassa ?
Ben, j'ai suivi avec attention ce que disaient les autres, mais moi, je garde beaucoup plus une image mitigée, puisque vous l'avez évoqué vous-même, le caractère de Bokassa était beaucoup plus versé dans la mégalomanie. Mais à côté de ça, c'est vrai, il a cette image de bâtisseur, il a laissé les principales infrastructures que nous retrouvons encore dans le pays, mais il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de familles endeuillées, il y a beaucoup de cas de disparition, et nous devons aussi avoir à l'esprit, lorsqu'on évoque la question de Bokassa, le fait que les victimes, à ce jour, n'ont pas été prises en compte, il n'y a pas eu de véritable justice pour elles, justice sociale surtout, puisque pour ceux qui ont perdu les leurs, pour ceux qui ont perdu leurs biens, c'est passé par perte et profit. Même l'État qui avait condamné Bokassa et qui s'était accaparé de tous ses biens n'a jamais cherché à indemniser les victimes ni leurs parents.
Ouais. Je rappelle que Bokassa a été condamné deux fois. Une première fois en 1980, il était en exil en Côte d'Ivoire. Il a été jugé par contumace, donc il n'était pas physiquement présent, hein, pour dire les choses en français facile. Il a été condamné à mort en 80 pour assassinat, recel de cadavres, anthropophagie, atteinte aux libertés individuelles, coups et blessures, détournement de fonds publics, etc., etc. Puis ensuite, quand il a décidé de revenir en Centrafrique croyant être acclamé par la population, il est jugé une seconde fois, il est physiquement présent, et là il est condamné à la peine capitale, puis ensuite bon, ce sera à 10 ans de prison finalement. Mais c'est insuffisant pour vous ? Ça n'a pas contribué à réconcilier le peuple centrafricain ?
Ben, en réalité non, parce que quelque part, Si aujourd'hui nous vivons une crise qui peine à se conclure en Centrafrique, l'accent est beaucoup mis aujourd'hui sur les questions de justice et de réparation. Alors, est-ce que la question de justice et de réparation doit être réservée à l'actualité ou aux faits contemporains? Je ne pense pas. Je vous le dis encore, l'époque de Bokassa est, contrairement à ce que disait un de mes prédécesseurs, tous les présidents qui se sont succédés n'ont pas eu les mêmes comportements à la même échelle.
Oui. Bien sûr. Alors, puisque vous parlez, excusez-moi, je vous interromps, mais puisque vous parlez des présidents qui ont succédé à Bokassa, il y a eu Kolingba en 93 qui décide de le gracier, donc de le libérer, et puis il y a eu en 2010 Bozizé qui a réhabilité Bokassa.
Oui, Bozizé a réhabilité Bokassa, mais il faut aussi savoir que le président Bozizé est très lié à la personne d'abord et maintenant à la mémoire du président Bokassa ou de l'empereur dont il fut l'aide de camp. Et il ne faut pas oublier le fait que entre eux il y avait une relation quasi filiale.
Effectivement.
Il y a ça aussi qui entre en ligne de compte.
En tout cas, Bozizé a réhabilité Bokassa dans tous ses droits, ce qui efface donc les condamnations pénales, notamment toutes les amendes, les frais de justice et toutes les inculpations. Merci beaucoup de cette réaction. Charlie, bonjour.
Oui, bonjour, M. Juan Gomez.
Vous êtes à Paris et scandalisé quand vous entendez des auditeurs saluer l'œuvre de Bokassa.
Absolument, absolument, M. Juan Gomez. Je suis doublement scandalisé. Pour moi, c'est une gifle à l'histoire. C'est une injure à la mémoire de tous ces enfants, ces étudiants tombés dans la rue et qui devaient payer, dont les parents devaient payer le prix des balles qui les a servis au massacre pour pouvoir récupérer le corps de ces enfants. C'est un déni de l'histoire. Ceux qui sont en train de parler de Bokassa.
Ah, on a été coupé. Alors même avec les auditeurs de Paris, ça coupe. Décidément, on n'a pas de chance ce matin. Voilà, c'est la preuve que ça a coupé. Janvier, sur Facebook, nous dit « Aucun tyran ne peut être perçu comme un bâtisseur, à moins que l'on soit aveugle. Bokassa ne peut bénéficier d'aucun hommage. » Qui avons-nous ? Yann Chris, bonjour.
Oui, bonjour Anne.
Bonjour. Ah, déplacez-vous, j'ai l'impression qu'il y a de l'écho, vous êtes dans une pièce où ça résonne un tout petit peu. Yann Chris, vous disiez au standard, j'entends que vous vous déplacez, il ouvre les portes Yann Chris, on est en direct, c'est comme ça. Vous disiez au standard que vous ne compreniez toujours pas pourquoi Bokassa avait été renversé.
Oui, effectivement. Lors de l'opération Barakuda qui a renversé l'empereur Bokassa, l'histoire nous raconte que voilà, c'était un complot français qui a favorisé la chute du président Bokassa. Et donc aujourd'hui, on se pose des questions et pourtant cet homme-là avait de très bonnes relations avec la France. Donc c'est l'interrogation que nous faisons jusqu'au
bout. Et vous n'avez toujours pas eu une réponse à cette question. On ne vous l'a pas enseigné, vous ne l'avez pas appris à l'école ou à l'université si vous avez eu la chance de faire des études supérieures.
Aucune nouvelle dessus. On n'a jamais été clarifié sur ça.
Oui. Bon, moi je ne suis pas historien, mais évidemment j'ai travaillé pour préparer cette émission. Je me dirigerai plutôt vers du côté d'Alain Foka qui présente évidemment Archives d'Afrique sur notre antenne tous les dimanches. Mais on est à la fin, des années 70 et à ce moment-là, Bokassa se rapproche de la Libye de Muammar Kadhafi. Et on sait que cette nouvelle relation entre Bangui et Tripoli n'était pas du goût des Français. Donc voilà, après il y a eu aussi, on en parlait tout à l'heure, le massacre de ces jeunes collégiens, étudiants, qui a ému la communauté internationale, et la France ne pouvait plus clairement soutenir Bokassa. Voilà pour mon petit élément de réponse, mais je ne suis pas historien, et voilà, enfin n'hésitez pas à aller sur internet, je pense que vous aurez la réponse. Merci à tous de votre fidélité, demain la Libre Antenne, vous commentez l'actualité de votre choix, à vous de choisir, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous dès maintenant.
Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous a proposé appel sur l'actualité.
Et dans 10 minutes, priorité santé.